C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Toumba Kamanga à la présentation.
Merci Tina Salama, bonsoir. Deux sujets au menu de cette émission, renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, publication ce mardi par le groupe technique de travail de la liste des candidats aux différents postes, quoi de neuf au sujet de cette liste. Deuxième thème, au Bas-Congo, grève depuis une semaine à l'ONATRA. Les agents de l'Office national de transport exigent le départ de leur ADG, un Français, Claude Pékin-Ponson, et du président du conseil d'administration, un Congolais, Guillaume Kaacha, qu'ils accusent de mauvaise gestion. La rencontre ce mardi, primature délégation syndicale de l'ONATRA, pourra-t-elle décanter cette grève? On en parle justement dans cette émission avec, comme invité, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Ferdinand Sambéré. Il interviendra dans la première partie consacrée à l'ONATRA, crise dans laquelle le ministre assure la médiation. Maître Lumeya Dou Malegui, député national, membre du groupe parlementaire des chrétiens démocrates, il intervient comme porte-parole du groupe technique de travail. Maître Rustin Paka, il est député national, président du parti politique Rassemblement des écologistes congolais et allié de la plateforme ODER de l'opposition, il sera au téléphone. Et enfin, Jean-Mathieu Mofu-Lembi, député national, membre de l'UDEMO. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission, réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Nous ouvrons le débat ce soir par le Bas-Congo où se poursuit la grève depuis une semaine à l'ONATRA. Les agents de l'Office national de transport exigent le départ de leur ADG en français, Claude Pékin-Ponson, et du président du conseil d'administration, le Congolais Guillaume Kaacha, qu'ils accusent de mauvaise gestion. Une rencontre vient de s'achever ce mardi entre la primature et la délégation syndicale de l'ONATRA. Rien n'a filtré de cette réunion. Pendant ce temps sur terrain, pas de reprise de travail, tant que l'employeur n'aura pas répondu favorablement à nos revendications. C'est l'essentiel du message lancé ce mardi à Matadi par Georges Keto, secrétaire général adjoint de la délégation syndicale des agents de l'ONATRA au Bas-Congo. C'était devant les travailleurs de cet office de l'État, dans les différentes installations portuaires de l'ONATRA au Bas-Congo. Les conséquences de cette grève commencent déjà à se faire sentir. Guillaume Génial parle pour les détails.
Ils étaient plus d'une centaine réunis autour de leur secrétaire général. Georges Keto a, au cours de cette réunion qui s'est tenue à Matadi, réaffirmé la poursuite de la grève dans toutes les installations portuaires du Bas-Congo en attendant l'issue des négociations entamées jeudi dernier à Kinshasa entre la délégation syndicale nationale de l'ONATRA et leur employeur. Parmi les revendications, les agents demandent le départ de Claude Pékoumé, administrateur délégué général, et de Guillaume Kaacha, président du conseil d'administration des sept offices nationaux. Les travailleurs réclament également plus de clarté dans la question liée à la mise en retraite de certains agents ayant dépassé 55 ans d'âge. Autre revendication, les rémunérations doivent être payées au taux du jour et non au taux de 560 francs congolais pour un dollar, comme c'est le cas aujourd'hui, a indiqué un syndicaliste. Enfin, les agents de l'ONATRA du port de Matadi exigent la résiliation du contrat que le comité de gestion a signé avec Newfor, une entreprise de sous-traitance qui gère les manutentionneurs au port de Matadi. Matadi, Dirogena. Dialogue entre Congolais.
Il faut ajouter à propos des conséquences que les activités portuaires sont paralysées dans toutes les installations portuaires de l'ONATRA au Bas-Congo. À Matadi, selon un déclarant en douane, environ 500 conteneurs de vivres frais sont bloqués au port. Tous les services parallèles, notamment l'OFIDA, l'OCC, la DGI et la quarantaine, sont touchés. Un cadre de l'ONATRA qui a requis l'anonymat parle de millions de dollars de manque à gagner pour l'ONATRA et l'OFIDA en 6 jours de grève. Bonsoir, monsieur le ministre du Travail, Ferdinand Sambéré.
Oui, bonsoir.
Oui, monsieur le ministre, vous avez fait partie, j'imagine, de la rencontre de cet après-midi entre la primature et la délégation syndicale de l'ONATRA.
C'est exact. Nous avons conduit la délégation et des syndicalistes et du comité de gestion auprès du chef de gouvernement, monsieur le premier ministre. Ils ont eu le temps, justement, d'exposer tous les problèmes.
Oui, évidemment, vous avez participé à cette réunion en tant que médiateur. Comment ça s'est déroulé?
Je crois que le climat était très très bon. Le premier ministre son Excellence Monsieur le Premier ministre était très très détendu pour écouter toutes les deux parties, les syndicalistes à ce qu'ils ont présenté comme problème. Je crois que c'est tombé dans une oreille d'un para, qui est le chef du gouvernement, qui les a suivis très religieusement. Et je crois que cette attitude a rassuré ces syndicalistes-là que dès demain, je crois qu'ils vont lancer un message officiel à tous les travailleurs.
Justement, d'après notre reporter, à entendre les syndicalistes, après leur discussion avec le Premier ministre Adolphe Mouzito, il y a lieu d'espérer une issue favorable, sans dire plus. Ils ont préféré réserver la primeur de leur entretien aux travailleurs conviés à la grande communication demain mercredi à la direction générale de l'entreprise. Monsieur le ministre, encore vous, donc on peut dire que vous avez trouvé des solutions à cette grève.
C'est le chef du gouvernement lui-même. Vous savez, nous étions là, moi je n'étais qu'un témoin à cet entretien avec le chef du gouvernement. C'est lui-même qui a parlé, donc à qui a reçu toutes les doléances. Il a donné les orientations, il a promis ce qu'il peut faire. Je préfère laisser les syndicats s'adresser aux travailleurs pour révéler tous les contenus du message qu'ils vont faire demain. Et je crois que c'est quand même un message porteur.
Voilà, c'est un message porteur. Évidemment, nous n'avons pas, malheureusement, les syndicalistes. De toute façon, ils ont été approchés par nos reporters. Ils ont refusé de s'exprimer. Ils ont donc donné rendez-vous pour demain mercredi. Mais évidemment, nous sommes encore avec vous, monsieur le ministre. Mais nous donnons aussi la parole à d'autres invités qui sont avec nous, notamment dans ce studio, maître Lounéa. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Ouais, un petit commentaire, évidemment, on vous a invité spécialement pour le deuxième sujet consacré à l'Assemblée nationale, mais un petit commentaire sur cette situation de Donatra. Vous êtes quand même député national.
Et vous avez raison, je suis député national. Tout ce qui est lié au social de la population doit nous intéresser. Et surtout que ça vient de l'ONATRA. Nous savons que l'ONATRA, c'était une entreprise névralgique pour notre pays. Ça génère beaucoup de recettes. Moi, je crois que la délégation syndicale a posé un vrai problème, surtout le problème lié à la retraite, le problème des paiements.
Oui.
Et parce que souvent ici, quand quelqu'un est mis à la retraite, c'est, il ne fait pas 10 ans, 15 ans. Après, il meurt parce que les conditions ne sont pas réunies. Et quand on part à la retraite, on croit que vraiment c'est une punition qu'on donne.
Alors les gens ne veulent plus aller.
Non, les gens
ne veulent pas aller.
Oui. Alors c'est mieux qu'on sache si la personne qui doit partir à la retraite remplit toutes les conditions. Et là, je crois que pendant l'activité, parce que j'ai été PCA à l'INSS,
président du conseil d'administration,
oui, on trouve, les gens de l'INSS viennent, sensibilisent beaucoup de cadres dans les entreprises pour qu'ils regardent au moins les taux de versement à l'INSS. Mais il y a trop de magouilles, les gens négligent. Mais à la veille de la retraite, on se souvient que donc qu'est-ce que je vais devenir.
Voilà, donc vous soutenez en fait cette grève, si on comprend.
Je crois que je ne suis pas très éloigné de la délégation syndicale parce que c'est leur travail qu'ils font. Mais je ne crois pas que l'exigence liée au départ du PCA et à DGC, vous savez, nous sommes dans les négociations, on cherche à mettre la barre un peu plus haut pour rattraper, mais je crois, comme le ministre nous rassure qu'il y a de bonnes nouvelles, c'est une bonne chose.
Voilà, maître Jean, non, vous n'êtes pas avocat, excusez-moi, c'est Jean-Mathieu Mohulendi, vous êtes député national, membre de l'UDEMO, bonsoir.
Non, bonsoir, monsieur le journaliste.
Oui, un petit mot sur cette grève de l'ONATRA.
Oh oui, merci beaucoup. Cette grève, elle est constitutionnelle. Donc le droit, la loi reconnaît le droit, c'est normal, l'article 39. Et donc il y a lieu à ce que, avant que l'on ne puisse aller en grève, il y a une procédure, il y a un comportement, et il y a une logique à suivre. Cette logique voudrait que l'on puisse d'abord respecter préalablement, n'est-ce pas, donc la négociation avec son employeur. Et donc, si on n'est pas encore à ce niveau-là, je pense qu'il y a lieu de rappeler à nos délégués syndicaux qu'il ne faudra pas à ce que l'on puisse danser avant la musique. Et il y a une question. Je disais que cet article-là reconnaissait le droit aux syndicalistes ou bien aux travailleurs d'aller en grève. Mais il y a un comportement observé. Moi, selon les informations à notre niveau, apparemment, c'est comme si nos amis étaient un peu pressés. Et ils ont déclenché la grève, ils ont demandé aux travailleurs de cesser sans que le préalable ne puisse être respecté. Ça, c'est un problème.
Voilà. Je vais juste rappeler, d'après le président de la délégation syndicale de l'entreprise publique, donc l'ONATRA, Étienne Tadila, interrogé par nos confrères de l'AFP, je cite, nous reprochons à M. Pécum Ponson des insuffisances de gestion, à M. Karachia de sortir de son rôle d'administrateur pour s'y mixer dans la gestion courante de l'entreprise. Et puis encore, à mi-parcours, nous constatons, c'est toujours le syndicaliste qui parle, nous constatons la mort dans l'âme que l'expertise attendue de ProGoza, qui est une firme qui a en fait choisi l'actuel directeur, Pécun Ponson. Nous constatons que cette expertise est invisible, aucun plan d'action, aucun investissement portuaire, l'exploitation ferroviaire et fluviale n'est plus assurée alors que l'ONATRA se voit astreint à payer 10 millions de dollars pour les 24 mois de gestion. Voilà, on revient maintenant vers vous, Maître Ruffin Paca, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
C'est-à-dire que j'ai salué tous les collègues députés et l'excellence du ministre du Transport qui est sur
le travail. Ministre du Travail.
Le ministre du Travail, pardon, qui est sur qui est dans les studios. Je voudrais simplement qu'on ait tourné autour du pot pour dire les choses très clairement telles qu'elles sont. Moi, je suis un peu embêté d'entendre le ministre dire que dans les négociations, il est là en observateur. C'est un rôle qu'on peut comprendre quand la crise est au début, mais si la délégation syndicale qui négocie avec la direction ne trouve pas de solution à une crise qui dure déjà, en dernier ressort, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui agisse et réponde. Que je sache, le matériel, c'est quand même pas une société privée, au sens où on peut définir des entreprises privées. Oui. Et donc, en ce moment-là, il faut qu'ils arrivent à faire quelque chose.
Oui.
Nous sommes dans une période de crise internationale, mais en même temps, il faut comprendre aussi que l'ONATRA, ce n'est pas ce qu'on appelle canard boiteux.
Oui.
Donc, c'est quand même une entreprise qui apporte pas mal de recettes. Je pense que si on trouve les moyens pour satisfaire la direction ou financer un certain nombre de projets, il faut qu'on trouve aussi les moyens pour les personnels, c'est-à-dire les facteurs humains doivent être rémunérés.
Oui.
Surtout que
oui.
Ce sont des gens qui travaillent dans des conditions de pénibilité extrême.
Oui, mais
je pense que vous connaissez le travail dans les ports.
Oui.
Et donc, à 45 ans, quand on a travaillé,
oui.
On sort quasiment amorti.
Oui, mais
il faut bien qu'on trouve des solutions à ce problème de retraite. Quelqu'un doit trouver des solutions.
Oui, mais pour le PACA, il faut pas qu'on devra libérer le ministre du Travail qui intervient, je précise, uniquement dans ce premier thème de cette émission, puisqu'on en a deux. Je reviens vers vous, monsieur le ministre du Travail, Ferdinand Cambéré, avant de répondre à tout ce que les députés ont dit, qui sont invités dans cette émission. Il y a Blaise Osongo, c'est un auditeur, qui nous écrit depuis Kananga, au Kassai occidental. Pour lui, les grèves à répétition dans les entreprises publiques prouvent l'incapacité de l'État. La privatisation reste la solution idéale. Votre réponse, monsieur le ministre?
Oui, merci beaucoup. Je remercie tous les intervenants. Mais peut-être l'aspect qu'il faut que je souligne encore, le mouvement ou l'arrêt de travail quand ça a commencé au niveau de l'ONATRA,
oui.
Normalement, il n'y a pas encore eu de grève véritablement ou légalement formulée. Jusque-là, c'était un arrêt de travail. Lorsque nous avions reçu au niveau, les deux parties au niveau du ministère, les uns qui s'accusaient les uns contre les autres, pour dire qui a déclenché en fait les mouvements ou l'arrêt du travail. C'est soit les uns qui accusaient les comités pour dire non, ils ont militarisé les liens, ils ne permettent pas que les syndicats communiquent aux travailleurs. Et les autres qui disaient que non, les syndicalistes sont porteurs de messages destructeurs et qui sont des messages à amener au blocage. C'est à cela que nous avions fait la médiation au niveau de notre ministère. Mais nous avions constaté que dans la foulée des revendications des syndicalistes, il y avait plusieurs aspects qui échappaient aux attributions de notre ministère. C'est à cela, notamment, la réforme des entreprises. À sa phase de stabilisation de l'entreprise ou de l'ONATRA, nous ne sommes pas juges, en tant que ministre de l'Emploi, de la gestion au sein de l'entreprise. Nous sommes là juste quand il y a, nous nous rassurons qu'il s'agit véritablement d'un conflit de travail. Par rapport aux aspects sociaux des travailleurs, aux droits garantis aux travailleurs, ainsi de suite. Et c'est ça que nous avions vérifié. Et nous avions promis à ce moment-là de solliciter l'audience auprès du Premier ministre. Parce que dans l'entretemps, les deux autres collègues, je n'avais pas communication qui, eux, ont la tutelle de l'ONATRA. Parce que moi, je ne suis pas autorité qui a la tutelle de l'ONATRA. Oui. Mais au moins, il y a le ministère du portefeuille et le transport. Alors, moi j'avais, comme sollicité par les syndicalistes, sollicité ou promis ou offert de solliciter l'audience auprès du Premier ministre pour justement, dans la phase réforme de l'entreprise, ça ce n'est pas ma matière, on pouvait aller discuter donc comme un sollicité auprès du Premier ministre parce qu'il disait que au niveau des tutelles, il n'y avait pas communication suffisante.
Oui, monsieur le ministre, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, hein, pour continuer à en parler, est-ce que vous pouvez résumer finalement sur quoi aura abouti la mission que vous avez menée en tant que médiateur dans ce conflit entre travailleurs et employeurs au niveau de l'ONATRA?
Oui, je crois que ce qui est heureux dans tout ça, c'est qu'au moins au niveau du Premier ministre, les syndicalistes voulaient se rassurer. À ce qui concerne les réformes, est-ce que le départ des travailleurs, comme on a dit, ceux qui ont 55 ans, est-ce que c'est déjà dans le pipeline et ça sera signé par lui? Je crois qu'il a rassuré tout un chacun que ce processus de réforme, surtout dans l'aspect social, ou le plan social qui accompagne toujours le plan de stabilisation, on devra associer et les syndicalistes qui sont concernés, et peut-être notre ministère, parce que c'est lui qui a l'attribution justement à cette matière-là. Mmh. Et je crois qu'à ce niveau-là, ils étaient rassurés.
Oui.
Sans entrer dans les détails, bien sûr.
Voilà. Monsieur le ministre, peut-être un dernier mot. Hein, ouais. Là, c'est l'ONATRA, mais il y a aussi la grève au niveau de la SNCC. Est-ce qu'il y a une suite? Parce qu'ils attendent aussi une suite au niveau de la SNCC. On va terminer par là avec vous.
Oui, au niveau de la SNCC, comme vous le savez, il y avait déjà eu des protocoles qui ont été pris au niveau toujours du Premier ministre, donc le gouvernement a déjà promis. Et je crois qu'ils sont dans le processus de mobilisation de fonds pour aller commencer à s'acquitter vis-à-vis de ces travailleurs-là. Et que je crois qu'il faut jouer. C'est vrai qu'on dit que ventre affamé n'a point d'oreille, mais je crois que nous avons joué à l'apaisement dès lors que le gouvernement a pris des engagements pour essayer de désintéresser les élus.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ma question rejoint justement celle qui venait de tomber là, c'est elle vient de Mwamba, un agent de la SNCC Lubumbashi. Monsieur le ministre du Travail, Ferdinand Cambéré, nous vous remercions et là, ça nous permet d'aborder le deuxième thème de cette émission, dialogue entre Congolais, qui se poursuit avec ce second thème, renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, publication ce mardi par le groupe technique de travail de la liste des candidats aux différents postes. Quoi de neuf au sujet de cette liste? Nous en parlons tout de suite, mais c'est après ce rappel des contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quoi de neuf au sujet de la liste des candidats au renouvellement des différents postes du bureau de l'Assemblée nationale, liste affichée ce mardi. D'après cette liste qui est définitive, 58 dossiers ont été retenus sur les 60 déposés. Parmi les deux dossiers écartés figure celui de Singaoudjou qui s'est retiré de lui-même de la course à la présidence
pour se représenter à notre poste. Et puis, Adi Rodou Mawazo, dont la candidature a été rejetée car son dossier a été jugé incomplet. Reportage Marie-Chantal Lomba.
Pour certains, le retrait de la candidature de Singa Oudou de l'UDEMO, membre de l'ANC à la présidence, laisse un champ libre à Évariste Bouchab. Ce dernier se dit confiant quant à sa réussite. Singa Oudou maintient néanmoins sa candidature à la première vice-présidence. D'un autre côté, les quatre noms détenant de l'opposition sont maintenus à la tête du bureau. Il s'agit de Clément Kankou, Gilbert Kiakwama, Baudouin Idambitouo et François Mwamba. D'après Clément Kankou, malgré ses candidatures diverses, l'opposition n'exclut pas de passer des accords. Toutefois, les tractations et études des candidatures par certains députés se poursuivent en vue d'une concertation sur les candidats à soutenir. C'est le cas par exemple de ce nouveau courant des réformistes au sein de l'Assemblée nationale, le courant de réflexion pour la défense de la démocratie et des valeurs républicaines initié par Vital Kamerhe et des députés. Concernant la candidature rejetée, le groupe technique de travail a indiqué qu'Adi Rodou Mawazo n'avait pas spécifié le poste à briguer. Le président du bureau a souligné avoir contacté le groupe parlementaire du député qui n'aurait pas reconnu sa candidature.
Merci beaucoup Marie-Chantal Lumba. Nous commençons d'abord, j'aurais voulu commencer par vous, Jean-Mathieu Mokoulembi, vous qui êtes député national, membre de l'UDEMO, surtout que l'un de vos candidats, Singa Oudou, s'est arrêté sa candidature au niveau de la présidence. Je reviendrai à vous, mais je préfère commencer par le porte-parole du groupe technique de travail, Maître Lumea, un mot à dire sur cet élément de Marie-Chantal Lumba.
Ça reflète la réalité. Le groupe technique du travail a reçu mission au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous puissions nous occuper de toutes les opérations électorales et l'affichage, la publication des listes entre dans nos attributions. Ce qui est bon, nous travaillons à parfaite harmonie avec les bureaux sortants avant de publier la liste. Nous avons été reçus longuement par le président Kamerhe, qui a pris connaissance de tous les noms et ensuite il nous a remercié pour le travail réalisé et il nous a donné des feux verts pour que cela soit affiché. Donc il y a une parfaite entente entre les bureaux sortants et les groupes techniques de travail.
Le bureau sortant que dirige justement Vital Kamerhe. Mais c'est combien de candidats que vous avez? On sait qu'il y a 58 dossiers retenus, mais c'est combien de candidats finalement?
Non, c'est 58. Il y a eu 60 dossiers et nous avons retenu 58, comme l'a si bien dit votre journaliste, votre collègue. Donc il y a Singa Oudou qui a retiré volontairement sa candidature et puis l'honorable
de la présidence.
De la présidence.
Oui.
Et puis, notre collègue a dit Rodou, je crois que c'est ça les noms,
oui.
Et qui n'a pas exprimé ouvertement ses ambitions, c'est-à-dire quel poste il voulait occuper.
Oui. Mais ça fait combien de candidats? Parce que le nombre de dossiers, semble-t-il, ce n'est pas le nombre de candidats.
Non, le nombre de dossiers était lié au nombre de candidats.
Voilà.
Donc il y a eu 60 dossiers, ont été éliminés, donc il reste 58 candidats.
Et je pose la question parce qu'il semble que certains candidats ont postulé ou ont brigué différents postes.
Oui, mais là aussi il faut avoir des dossiers différents.
Voilà. Alors je reviens maintenant vers vous, Jean-Mathieu Mokoulembi, monsieur le député national, vous êtes membre de l'UDEMO. Pourquoi votre candidat Singa Oudou a retiré sa candidature de la présidence?
Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est un député national. Il est libre de prendre toutes ses dispositions.
Membre de votre parti, quand même.
Hein? Ah oui, il est membre de mon groupe parlementaire.
Mm-hmm.
Et j'ai dit que c'est un député national et il a son indépendance de pouvoir s'engager dans cette lutte-là à tel ou tel autre niveau.
Mm-hmm.
Donc, je pense que c'était clair et nous sommes en coalition avec l'ANP.
Mmh.
Et donc, vous comprenez clairement qu'on n'avait aucune raison de pouvoir positionner un candidat au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, alors que l'ANP avait déjà présenté un autre candidat.
Vous pouvez pas dire quoi vous l'avez fait. Pourtant, vous l'avez déjà fait.
Non, mais c'était pas une manière de gérer. Mais alors, c'était une manière de prendre un certain nombre de dispositions parce qu'il y avait eu des élections. C'est quoi, c'était une erreur ou bien
c'est pas une erreur, mais en attendant que l'AMP avec les alliés, que l'AMP et les alliés puissent rencontrer pour harmoniser, nous avions voulu à ce que nous à notre niveau que nous positionnions d'abord un certain nombre de candidats à notre niveau en attendant qu'on puisse harmoniser.
Mmh. Alors, réaction avec Maître Rufin Paca. Vous êtes l'ODR, hein, plateforme de l'opposition. Mmh.
Oui, je suis le débat tel qu'il se déroule. Qu'est-ce qu'il faut donner comme information parce qu'il faut que la population comprenne ce qui se passe. Nous, au niveau de l'ODR, il y a déjà 48 heures, nous avions publié la liste de nos candidats. Oui. Parce que en ce moment-là, nous avions aligné 7 candidats, c'est-à-dire 7 personnes à chacun des postes prévus ou à pouvoir.
Excusez-moi, là vous parlez des candidats ODR, on vient vous parler des candidats de l'opposition en général.
Des candidats ODR, dans l'opposition, il y a une difficulté, il ne faut pas qu'on se cache, il faut que l'opinion comprenne et sache ce que nous sommes en train de faire. Le parti phare dans l'opposition qui est censé
discussion,
c'est le MLC.
Ouais.
Je ne pense pas qu'il y ait eu trop d'efforts pour arriver à un accord, mais en tout cas, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et de notre côté, il y avait certainement aussi des malins dans les autres groupes parlementaires qui ont voulu court-circuiter cette volonté du président François Mwamba de vouloir réunir les gens. Et donc, il n'y a pas eu, au moment où on a déposé les candidatures, une volonté ferme de l'opposition de présenter, comme je le souhaitais moi-même, un candidat de l'opposition à chaque poste.
Mais il semble on a suivi François Mwamba qui a dit que il faut laisser les gens exprimer leurs ambitions.
Voilà justement. Donc quand je dis candidat de l'ODR, parce que c'est, je fais partie de ce groupe et nous avons aligné 7 candidats. Oui. Maintenant la démarche qui est menée depuis l'officialisation des candidatures, c'est de voir demain et jusqu'à la dernière minute s'il y a vraiment une possibilité de conciliation de façon à ce qu'il y ait un accord qui serait à la fois par soit le maintien des candidatures des gens que on penserait que ils doivent aller jusqu'au bout, soit le retrait d'un certain nombre de candidatures parce qu'on pense qu'elles n'ont pas assez de pugnacité pour aller jusqu'au bout.
Mmh.
En ce qui nous concerne, nous avions voulu aligner la candidature de Lissana Bonganga au poste du président de l'Assemblée nationale, mais comme on espérait toujours cette union qui devrait se faire au niveau de toute l'opposition, il s'en va, c'était désister. Il se trouve que les candidatures en liste au jour d'aujourd'hui et que nous sommes en train de soutenir à l'ODR, c'est toujours la candidature de Roger Lumbala qui est à la deuxième vice-présidence. Nous avons la candidature de Martin Mukonkole au niveau du rapporteur adjoint,
oui.
Et essentiellement la candidature de Jean-Claude Mwemba comme testeur adjoint. Nous pensons qu'il y a d'autres candidats qui s'étaient présentés notamment pour le poste de deuxième vice-président également, par exemple l'honorable Ngwanda, que ce soir même au sein de leur parti, il y a une encore qui est intervenue, les déclarations se feront, je ne peux pas déclarer à sa place, mais nous pensons très fermement que certaines candidatures ne se maintiendront pas pour laisser la place à d'autres copains de l'opposition de pouvoir se présenter en position utile.
Bon, merci, honorable Rufin. Paca, maître Louméa, qui est honorable aussi, hein, député national, je ne sais pas si vous êtes autorisé à le dire, vous, en tant que porte-parole du groupe technique de travail, vous êtes aussi membre de l'opposition politique du parti de M. Kakoma, qui est aussi candidat au niveau de la présidence. Est-ce que vous partagez l'avis de votre collègue Rufin Paca qui dit que l'opposition y va en ordre dispersé, alors que François Mwamba parlait de, il disait lui qu'il fallait laisser les gens exprimer leurs ambitions?
Je crois que l'opinion constate qu'il y a absence de discipline au sein de l'opposition. Nous ne pouvons pas comprendre une formation pour un groupe parlementaire comme les nôtres, les chrétiens démocrates, qui allie deux candidats, l'honorable Kakoma et l'honorable Kanku. Ce qui est un problème.
Clément Kanku.
il y a un problème. Donc, ce que nous pouvons noter ici avec satisfaction, au moins de voir la majorité, malgré des multitudes de députés, malgré les multitudes de compétences, ils ont réussi à avoir un candidat. Mais au niveau de l'opposition, jusqu'à aujourd'hui, nous ne parvenons toujours pas à avoir un porte-parole. Ça fait presque 2 ans. Nous tournons à rond et il y a ces élections au niveau du bureau, nous devons nous dire les vérités.
Bon, vous comprenez qu'il y a un manque d'accord au niveau de l'opposition.
Il y a absence de discipline au niveau de l'opposition. Nous ne pouvons pas aller ensemble si nous ne nous disciplinons pas. Et on doit faire nos leaders, c'est-à-dire les présidents des groupes parlementaires, ils doivent commencer par prêcher par l'exemple. On ne peut pas comprendre, même pour réunir l'opposition. 3 jours d'affilée, aucune réunion, avorter, et chaque fois avorter, nous ne pouvons pas être contents. Voilà, il y a un problème au niveau de l'opposition. Je crois qu'il faut qu'on convoque une plénière et que nous puissions régler ce problème. Ce n'est pas en partant en ordre dispersé que nous allons gagner la grande bataille.
Voilà. Et là, bien sûr, vous ne parlez pas en tant que porte-parole du groupe technique.
Non, je suis au niveau du groupe technique en tant que membre de l'opposition, mais aujourd'hui, c'est mieux quand il y a un problème que nous puissions le dire.
Le dire. Alors, Jean-Mathieu Mouhoulembi, vous devez être heureux, vous qui êtes allé de l'ANP en tant que membre de l'UDEMO, que l'ANP fait un bloc.
Ah oui, oui, je suis à l'aise, il n'y a pas de problème, vous comprenez d'emblée que même si jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu une concertation, une grande concertation pour les derniers mots, de toute façon, parce qu'il y a la discipline, il s'est fait que vous avez compris que nous avons tout fait de manière pour que l'on ne pousse pas gêner tel ou tel autre candidat, parce que c'est le candidat de la majorité, surtout au niveau de la présidence. Et d'ailleurs, c'était la toute première intervention que j'avais faite pour la question que vous m'avez posée pour savoir pourquoi Honorable Singaoujou s'était retiré. C'était juste pour qu'on puisse harmoniser, parce que c'est un combat, il faudra qu'on puisse se mettre ensemble et puis on va allier tel ou tel autre dans tel poste pour ne pas se retrouver finalement aux côtés de la logique.
Il y a des auditeurs, évidemment, qui nous écrivent, un auditeur anonyme, il pense que les élus doivent faire preuve de leur honnêteté, qu'ils n'élisent pas le président de l'Assemblée nationale par sentiment politique, moyennant la corruption, mais ils doivent plutôt élire un chef rassembleur et équilibriste. Antoine Mbala de Kalemio-Katanga demande à tous les députés de penser au peuple pendant les élections et ne pas être derrière leur parti politique. Kassamba Wanango de Bumia, province orientale, partage cet avis. Pour lui, le peuple connaît qui est qui et qui a fait quoi. Fortin Epopo de Soyo en Angola demande à l'opposition de présenter un seul candidat pour bien affronter la majorité. On s'arrête d'abord là et avoir vos réactions avec Rufin Faka.
Oui, en fait, c'est
vous êtes interpellé par les auditeurs. Hein?
Les souhaits des auditeurs qui sont en fait des citoyens congolais d'abord,
oui.
C'est que quelque part, il fallait que l'opposition se présente unie, avec des candidatures uniques à chaque poste, de façon à ce que nous allions dans cette bataille en ordre de marche pour profitant du désordre qui a eu un peu à l'AMP aussi, susciter des vocations de sorte que les députés qui vont voter en âme et conscience puissent nous faire confiance. Il y avait une chance inestimée pour qu'on arrive à cela, mais comme on a bien vu que jusque-là, les différents candidats privilégient plutôt leur propre chapelle au lieu de penser au collectif. Nous allons continuer à faire des efforts,
oui.
Parce qu'il reste encore 48 heures, pour obtenir des désistements, quand c'est possible, afin qu'il y ait moins de désordre possible, parce que cela fait désordre. Il faut qu'on dise la vérité.
Oui. Alors,
nous espérons jusqu'à la dernière minute que, en tout cas pour le poste de président, qu'il pourrait y avoir un geste de gentleman, des gens qui vont penser que au moment où il faut jouer, on laisse la latitude à un des candidats de nous représenter tous. en ce moment-là, nous serons là pour soutenir et pour mettre nos voix.
Et là, je pose tout de suite la question à Maître Lumea en tant que porte-parole du groupe technique de travail, parce que l'honorable député national, Ruffin Mpaka, qui a parlé tout à l'heure, lui, il dit qu'il espère qu'il y aura des désistements d'ici vendredi. Et est-ce que ça peut se faire? Parce que la liste que vous venez de publier aujourd'hui, c'est une liste définitive.
Oui, à tout moment, même dans la salle, les candidats peuvent se désister. Ils doivent nous écrire pour exprimer cette volonté-là. Donc à tout moment.
À tout moment.
Même 5 minutes avant les élections.
Voilà. Alors, Clément nous écrit depuis le Kasaï occidental. Nous sommes désolés de voir l'Union pour la Nation assoiffée du pouvoir avec 4 candidats au lieu d'un seul. Qu'est-ce que vous pouvez répondre encore, vous, Maître Lumea, parce que vous êtes de l'opposition quand même.
Bon, il n'y a pas une opposition Union pour la Nation.
C'est ça, donc, passé.
Oui, ça c'était pour les élections en 2006.
Oui.
Donc, les gens qui se sont présentés là, les règlements intérieurs exigent qu'on puisse se présenter soit pour le compte d'un groupe parlementaire ou bien individuellement. Donc, il n'y a personne qui s'affiche en tant qu'Union pour la Nation, parce qu'il n'existe pas ce groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.
Mais si on comprend le fond de sa question, c'est plus pourquoi l'opposition ne se présente pas en bloc.
C'est-à-dire que c'est comme nous l'avons dit, je crois qu'il y a les collègues Mpaga aussi qui venaient de le dire, il y a absence de discipline, et chacun dit que non. Il n'y a personne qui a fait la candidature pour moi. Je n'ai de compte à rendre qu'à ma base. Ma base m'exige, ma base me dit ceci. Et à la lire où vont les choses, je crois que l'opposition finira par éclater.
Voilà. Franck de Goma pose une question, et celle-là, c'est à vous, Mathieu Mohulembi, vous qui êtes député national membre de l'UDEMO. Est-ce une faiblesse de l'UDEMO d'avoir retiré leur candidature? Je veux parler de la présidence.
Non, c'est plutôt la discipline et la vraie façon de voir la chose. Parce que, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Les amis de l'opposition viennent de reconnaître tout de suite là qu'il n'y a pas de discipline. C'est ainsi que les gens sont en train de présenter leur candidature à l'ordre dispersé. Donc, il aurait voulu assez que la majorité aussi avec ses alliés puisse aller à l'ordre dispersé. C'est pas une faiblesse. Bon, je pense que c'est le contraire, une force et une sagesse.
Une sagesse. Et qu'est-ce que vous pensez des auditeurs comme Antoine Mbala de Kalemi, Kassamba Wanango de Bounia, qui insistent sur le fait que vous, députés, vous devriez penser au peuple pendant ces élections et non pas rester derrière votre parti politique?
C'est vraiment logique et ça c'est normal. L'article 5 de la Constitution dit ceci. Toute la souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir émane de ces peuples-là. C'est au nom de ces peuples-là que nous sommes en train de travailler ici. Et donc, moi, je ne vois pas à quoi on est député si on ne travaille pas pour le compte de ces peuples.
Et est-ce que vous pensez que les candidats que vous allez soutenir dans ces élections, ce sont les candidats que la base attend de vous, le peuple congolais attend?
Mais ils sont des députés. Quand on est déjà député, c'est dire on a signé un contrat avec sa base, avec le peuple. Et donc, je disais que c'est le pouvoir de ce peuple-là. Et parce qu'ils sont députés et qu'ils sont en train de poser leur candidature, moi j'ai la foi, je pense qu'en posant la candidature, on n'est pas allé là-bas pour ses intérêts égoïstes, mais c'est pour plutôt sauvegarder les intérêts supérieurs de la nation et tous ces peuples-là.
Ouais, comment vous pouvez réagir justement à cette même question, Maître Lumea, honorable Lumea?
Je crois que le grand enjeu ici est que les responsables qui vont nous diriger au niveau de l'Assemblée nationale, on aimerait vraiment qu'ils puissent privilégier les intérêts de la population. Je crois que c'est ce que la population demande.
Parce que c'est le cas.
Pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous nous sommes investis suffisamment pour donner des réponses adéquates au cri de notre population. Quand nous regardons la demande sociale aujourd'hui, et je venais des vacances parlementaires, il y a une rupture entre les députés que nous sommes et la base. Quand nous partons en vacances avec nos véhicules, vous verrez que les gens se révoltent. Ils disent que nous ne vous avons pas envoyé là-bas pour chercher des véhicules.
Oui,
alors on est un peu gêné. on est un peu gêné d'être les seuls riches, comme disent les catholiques, dans un océan de pauvres. Donc, ce que nous voulons, si nous pouvons participer à l'amélioration des conditions sociales de notre population, ça sera une très bonne chose. Et pour le moment, vous verrez que quand Kamere part, ceux qui ont beaucoup tiré sur Kamere, ce sont les ministres, et pas les moindres. Alors, ce sont des images qui révoltent. Et si le prochain bureau sera à la merci du gouvernement, alors je crois que ça sera très difficile pour nous, pour que la population puisse encore tendre son oreille vers les députés. Donc, nous devons vraiment nous investir, et c'est la demande pressante de beaucoup de députés, pour que les 2 ans qui nous restent, que nous puissions vraiment trouver des réponses satisfaisantes à la misère de la population. Et vous venez de voir ce qui se passe à la SNCC, ce qui se passe à l'ONATRA. Et ce sont des choses assez révoltantes.
Maître, récent pas cassé.
Oui, en fait, j'aimerais d'abord apporter 2 correctifs dans les propos qui ont été tenus. Quand Maître Lumeya, l'honorable Lumeya, parle de l'absence de discipline, bon, c'est une façon de présenter les choses. Moi, je préfère insister sur la question de la gestion des ambitions. L'opposition a mal géré la gestion des ambitions. C'était d'abord la responsabilité du parti pivot, c'est-à-dire le MLC, puisque nous autres, quand vous venez, vous avez un parti où il y a 1 élu, 2 élus. C'est ceux qui ont la majorité dans cet ensemble qui doivent donner la direction. Cela n'a pas été le cas. Et je pense qu'on peut encore mieux faire. Le deuxième problème, j'entends dire aussi que la base, beaucoup se réclament de la base pour dire que moi, ma base m'a élu, m'a envoyé au Parlement, donc je ne répondrai que devant la base.
Oui.
Mais la même base est quelquefois aussi contre les candidatures qui sont posées au bureau.
Oui, mais qu'est-ce que vous faites dans cela?
Je dis ceci. Je prends un exemple. Si au niveau de la présidence, il y avait un accord pour présenter qu'une personne au niveau de l'opposition, il y aurait aussi des accords au niveau d'en bas. C'est-à-dire que des candidatures de gens comme Roger Lumbala, des candidatures de gens comme Jean-Claude Bumba auraient eu leur consistance. Et ils auraient eu la chance de pouvoir venir nous représenter aussi. Des citoyens appellent, parce que je suis quand même autour de Jean-Claude Bumba, qui est mon ami, pour sa campagne. Des compatriotes qui appellent, qui disent, bon, l'honorable Bumba, c'est quelqu'un qui parle beaucoup pour nous, pour la population. Quand il va aller là-bas au bureau, est-ce qu'il va encore continuer à parler au nom de la population? Ce sont des critères qui peuvent apparaître subjectifs. Parce que les gens ne comprennent pas, ils ne parlent pas de ça, on dit, est-ce qu'il a la probité morale ou pas, est-ce qu'il il a dirigé des gens, est-ce qu'il a ces ressources-là, et on rentre en ligne de compte des considérations géopolitiques.
Voilà.
On parle de la province, on parle de beaucoup de choses.
Oui.
On oublie que peut-être qu'on peut être plus utile à la population dans la salle, plutôt qu'au niveau du bureau.
Voilà.
C'est une question que je pose, et que le
conseiller a pris beaucoup de temps.
Il réfléchit pour savoir est-ce que il fait bien à se présenter au niveau du bureau.
Merci beaucoup. Il y a d'autres réactions. On va terminer par ces 4 réactions qui nous arrivent. Kakouli, c'est fou. Gustave de Kalemie Katanga estime que les Congolais n'ont pas besoin de tendances politiques, mais de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, qu'on cherche des gens pouvant bien gérer toutes les tendances à l'Assemblée nationale. Peter Umuna est de Beni, au Nord Kivu, le Parlement est un organe de contrôle. Si les candidats sont là pour privilégier les intérêts de leur famille politique et non les intérêts de la nation, rien ne peut marcher dans ce pays. Junior de Goma pense qu'il est souhaitable que les députés élisent un président qui saura garantir l'indépendance du Parlement face à l'exécutif, et Kabila de Lubumbashi, l'opposition a la chance de gagner la présidence de l'Assemblée nationale si elle présentait un seul candidat. En 10 secondes à vous deux, on commence par vous, Jean-Mathieu Mouhoulembi, pardon, pour 10 secondes, hein, très rapidement parce que le temps court.
Ah oui, moi je pense que la recommandation de nos auditeurs ou bien les souhaits de nos auditeurs, ce sont aussi nos préoccupations. Donc on doit monter là-bas pour préserver les intérêts de la nation. Et en préservant les intérêts de la nation, il faut avoir une vision claire. Oui. Il faut contrôler et il faut sanctionner pour combattre l'impunité.
Merci beaucoup, M. Léa.
Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir un peu les scores que va réaliser le prochain président par rapport à ce qui a été réalisé par Kamere.
Merci beaucoup, merci, c'est à vous que nous mettons fin à cette émission. C'est à fin donc avec Maître Lumeya et Olsen Paka, Jean-Noël Mokondo était à la technique, réalisation de Dimaté, assisté de Kelly Kouté, Alain Hirung et Titi Mpoutou, supervision de Marcel Koubou-Jangoué. Merci de vous avoir.